RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme de journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie et la Grande-Bretagne explorent la coopération en matière de cybersécurité. L'Indonésie propose un produit CPO pour acheter Sukhoi. Un robot de l'Institut de la technologie de 10 novembre obtient 19 prix à Taïwan. Bazar indonésien promeut la relation bilatérale avec l'Australie. La ministre des Affaires étrangères, l'Indonésie doit devenir la puissance du monde 2045. Voici le journal complet. L'Indonésie et la Grande-Bretagne ont signé une coopération dans le domaine de la cybersécurité. La signature du protocole d'accord de la cybersécurité a été faite par le chef de cyber et le code d'État, ou BSSN de la République d'Indonésie, Joko Satyadi, et le jeune ministre britannique des Affaires Asie-Pacifique, Mark Field, qui a eu lieu au ministère des Affaires étrangères à Jakarta le mardi 14 août 2018, assisté par le vice-ministre des Affaires étrangères, Fahir. Après la signature, Fahir a expliqué que la coopération en matière de la cybersécurité entre les deux pays était très concrète, comprend le développement et la mise en œuvre de la stratégie de cybersécurité, la gestion des incidents de cybersécurité, la promotion de la sensibilisation et la formation dans le domaine de la sécurité et du renforcement des capacités en matière de cybersécurité.
Seperti yang baru disaksikan, kita baru saja menandatangani kerjasama di bidang cyber security.
Récemment, nous avons signé une coopération dans le domaine de la cybersécurité par le ministre Field et M. Joko en tant que chef de l'Agence de sécurité nationale et il est assez progressif par rapport à la coopération avec d'autres pays, car elle conduit aux efforts de collaboration plus concrète. Je veux ajouter que la dialogue de la sécurité informatique est l'un des coopérations qui sera faite. Ensuite, il y a le développement et la mise en œuvre des stratégies de cybersécurité, la gestion des incidents de cybersécurité, la promotion de la sensibilisation, la formation en sécurité et renforcement des capacités en matière de cybersécurité. Dans la même occasion, le chef de BSSN de l'Indonésie, Joko Satyadi, a déclaré que la signature du protocole d'accord de la cybersécurité entre l'Indonésie et la Grande-Bretagne est la première étape de la coopération dans ce domaine qui sera établie entre les deux pays. Selon Joko, la Grande-Bretagne est un pays avancé et supérieur en matière de cybertechnologie. La signature d'un protocole d'accord séjourne seulement un point de départ et à l'avenir, il y aura plus de coopération concrète. Il a déclaré qu'à l'avenir, le Royaume-Uni offrira une formation au renforcement des capacités dans le domaine de la cybersécurité pour l'Indonésie. En outre, il y aura des activités pour partager les expériences afin d'anticiper les cyberattaques à l'avenir. Le gouvernement indonésien, par le biais du ministère du Commerce, offrira un produit d'huile de palme brute pour acheter des avions Sukhoi en provenance de Russie. L'Indonésie achètera 11 Sukhoi Su-35 fabriqués par la Russie en utilisant certains scénarios de paiement pour ce pays. Le directeur général du ministère du Commerce extérieur, Oke Nurwan, a déclaré lundi à Jakarta 13-8 que l'Indonésie offrirait des produits de base en guise de paiement. En outre, l'Indonésie offrira des investissements dans le développement d'installations de maintenance et la réparation d'avions de chasse. Oke Nurwan a expliqué que l'Indonésie et la Russie menaient des discussions par le groupe de travail lié aux produits et aux mécanismes. Il a ajouté que 11 Sukhoi seront achetés par l'Indonésie pour une valeur de 1,14 milliard de dollars américains. Le plan prévoit que 50% du paiement sera effectué sous la forme d'achat de produits par la Russie, 35% sous la forme d'investissement des installations de maintenance et de réparation, et le reste sera payé en espèces. L'un des produits qui attire la Russie est la Kutkuk. L'équipe de robotique de l'Institut de la technologie de 10 novembre a remporté 19 prix lors de l'événement FILA Robo World Cup 2018 à l'Université Feng Chiang, Taichung, Taïwan. Une douzaine de prix ont été apportés par l'équipe Isharo, ou robot à pâté, dans la catégorie FILA Humanoid Robot Cup ou Urocap, l'équipe IRI, ou robot roue, dans la catégorie FIRA RoboShoot, à l'équipe Bayucharaka, ou robot volant, la catégorie FIRA Air. L'entraîneur de l'équipe de robotique de ITS, Muhtadin, en conférence de presse à Surabaya, a remercié le ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur pour toutes les opportunités et soutien jusqu'à la victoire de l'équipe. L'équipe de robotique de ITS essayera de montrer son meilleur dans d'autres compétitions à l'avenir. En plus de remporter le 19 prix, le robot Ishiro Adult Size, qui a atteint le sommet de l'haltérophilie, a également réussi à obtenir le record du monde. Le robot a réussi à soulever 130 disques compacts, battant le précédent record avec 100 disques compacts. Le Bazar indonésien 2018, organisé par le consulat général indonésien à Sydney en Australie, a promu les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Australie à l'étape de partenariat global. Le consulat général d'Indonésie, Heru Subolo, a déclaré récemment à Jakarta que l'Indonésie et l'Australie étaient en train d'augmenter leurs relations avec leurs partenaires stratégiques pour devenir des partenaires compréhensifs. En plus de promouvoir les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Australie, Bazar Indonésia 2018 a également introduit la cuisine indonésienne, ainsi que l'art, la culture et les jeux traditionnels. Outre le bazar, dans le cadre de la commémoration du 73e anniversaire de l'Indonésie, le consulat général indonésien coopère avec le réseau de la diaspora indonésienne, le peuple indonésien et certaines autres parties ont également organisé une marche commune. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré la vision indonésienne d'être un pays de la puissance du monde en 2045. En mots-clés, en 2045, l'Indonésie devrait devenir une puissance mondiale et acteur mondial. Il est dit par le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors de la conférence de Diaspora Muda Indonésie, ou la conférence indonésienne de diaspora jeunesse 2018 dont le thème est « Concevoir la vision de l'Indonésie 2045 à Jakarta, lundi 13 août ». À cette occasion, Retno a exprimé qu'une vision de la politique étrangère de l'Indonésie en 2045 devrait être conçue basée sur l'évolution de la situation à l'avenir. Selon Retno, en 2045, on estime qu'il y aura un changement de la puissance mondiale vers l'Asie parce que 4 des 5 plus grandes économies du monde sont en Asie, à savoir la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Japon. Il y a une responsabilité de l'Indonésie en raison de devenir une puissance mondiale. L'Indonésie pourrait devenir un acteur mondial à laquelle il faut compter par le monde. Et pour réaliser la vision de l'Indonésie en tant que grande puissance mondiale, selon lui, le principe de politique étrangère libre et active de l'Indonésie doit encore être maintenu. Et les auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui. Au revoir.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le cessez-le-feu entre le Hamas et l'Israël sera-t-il réalisé ?» Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza sera-t-il réalisé ? Cette question est vraiment pertinente, liée à la question du cessez-le-feu qui est en cours de discussion au sein du gouvernement israélien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche a exprimé son désir d'un cessez-le-feu avec les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le désir a été révélé dans le rapport du journal de Jerusalem Post du 13 août. Il a été rapporté que la déclaration de Netanyahu a été dite avant le premier ministre israélien présider son conseil des ministres. Le souhait de Netanyahu a été soulevé après que l'armée israélienne ait bombardé la région de Gaza. Environ 168 Palestiniens sont morts, le conflit étant de plus en plus tendu dans la bande de Gaza, déclenché par le transfert de la capitale israélienne à Jérusalem. L'Israël augmente de plus en plus ses attaques en déployant ses forces aériennes pour attaquer les territoires palestiniens dans la bande de Gaza du mercredi du 8 au 9 août 2018. Au moins 170 points sont devenus des frappes aériennes israéliennes lors des attaques du 8 août 2018. Les Palestiniens, à savoir le Hamas qui occupe la bande de Gaza, répondent que le cessez-le-feu a effectivement été exécuté. Le Hamas a déclaré que le cessez-le-feu avait été réalisé grâce à la participation égyptienne. Les faits montrent qu'à la fin de la semaine dernière, les forces aériennes israéliennes n'ont plus attaqué. Concernant la participation de l'Égypte, comme l'a déclaré le Hamas, il est justifié par la nouvelle que le premier ministre Netanyahu se rendait en Égypte en secret. La télévision israélienne a rapporté que Netanyahu avait rencontré en mai dernier le président Abdel Fattah al-Sisi lié au cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La question est s'il est vrai qu'un cessez-le-feu aura lieu entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien et qu'il n'y a plus de victimes civiles. La déclaration du premier ministre israélien avant la réunion du cabinet au début de cette semaine pourrait être un signe que pour la première fois, un cessez-le-feu a été discuté sérieusement lors d'une réunion du cabinet. Si cet engagement est réalisé, l'inquiétude qu'il y aura une autre guerre ouverte entre l'Israël et le Hamas palestinien, comme cela s'est produit en 2008, peut être évité. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteur, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « Le canal de Panama est ouvert le 15 août 1914 ». Le canal de Panama est un canal maritime qui traverse l'isthme de Panama en Amérique centrale, reliant l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Les navires n'ont plus besoin de faire route par le cap Horn et le passage de Drake, à la pointe australe de l'Amérique du Sud. Un navire allant de New York à San Francisco par le canal parcourt 9500 km, moins de la moitié de 22 500 km du voyage par le Cap Horn. Le concept d'un canal à Panama remonte au début du XVIe siècle. Finalement, à la suite du succès du canal de Suez, les Français, sous la direction de Ferdinand de Lesseps, qui avait réalisé ce dernier, commencent la construction d'un canal au niveau de la mer ou sans écluse, au Panama le 1er janvier 1882 et le canal a ouvert le 15 août 1914. La transformation est sur la signature de l'accord de New York le 15 août 1962. L'accord de New York est un accord conclu en vue de transférer le pouvoir sur l'océan occidental des Pays-Bas à l'Indonésie. L'accord de New York a été initié par le diplomate américain Ellsworth Bunker car la bataille sur l'océan occidental n'a jamais pris fin. L'un des résultats de l'accord de New York a été un cessez-le-feu et le transfert de pouvoir sur l'océan occidental des Pays-Bas à l'Indonésie. Ce problème a commencé lorsque les Hollandais ont promis de résoudre le problème de l'océan occidental au plus tard dans un an, lors de la reconnaissance de la souveraineté indonésienne à la table ronde à La Haye le 2 novembre 1949. Mais jusqu'à 12 ans plus tard, en 1961, ce problème n'a pas été résolu. Cela a amené la République d'Indonésie à prendre des mesures importantes pour libérer l'océan occidental des Pays-Bas. Les mesures prises sont des étapes de diplomatie, d'affrontement et d'opérations militaires. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement les accords de paix entre le GAM et le gouvernement indonésien avec la signature d'un mémorandum d'accord à Helsinki en Finlande le 15 août 2005. Le conflit entre le gouvernement indonésien et le mouvement Aceh Libre ou GAM a continué jusqu'à ce que le gouvernement a mis l'état d'urgence militaire à Aceh en 2003. Le conflit a réprimé les activités armées menées par GAM. Beaucoup d'activistes de GAM qui ont fui en dehors d'Aceh et à l'étranger. Le séisme et le tsunami le 26 décembre 2004 ont forcé les parties en conflit à la table des négociations sur l'initiation de la médiation par la partie internationale. Le 27 février 2005, GAM et le gouvernement indonésien ont commencé à négocier à Vantaa, en Finlande. L'ancien président finlandais, Martti Ahtisaari, a le rôle en tant que facilitateur. Le 17 juillet 2005, après avoir négocié pendant 25 jours, l'équipe de négociation indonésienne a réussi à atteindre un accord de paix avec le GAM à Vantaa, Helsinki, la Finlande. La signature d'un protocole d'accord de paix tenu le 15 août 2005. Parmi les points importants est que le gouvernement indonésien facilitera la création de partis politiques locaux à Aceh et une amnistie pour les membres de GAM. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et encore le titre « L'Indonésie, Malaisie collaborent pour développer l'industrie automobile ». L'Indonésie et la Malaisie ont convenu de collaborer au développement d'une industrie automobile compétitive sur le marché de l'ASEAN. Cet effort approfondit la structure de fabrication et complète les besoins en composants dans les deux pays. Cela a été déclaré par le directeur général de la résilience et du développement de l'accès industriel international du ministère de l'Industrie, I Gusti Putu Surya Wirawan, à Jakarta, vendredi. Selon Putu Surya Wirawan, l'Indonésie et la Malaisie veulent être des pionniers de l'ASEAN. Les deux pays se rendent compte que l'ASEAN est une puissance économique considérable. La synergie entre les deux pays a été marquée par la naissance de mémorandum d'accord entre le président de l'Institut indonésien de l'automobile, Imadi Denatangkas, et le président directeur général de l'Institut malais de l'automobile, Dato' Muhammad Madani Sahari. Cet événement a été témoigné par le ministre malais du Commerce et de l'Industrie internationale, Daryl Leiking, et le directeur général de la résilience et du développement de l'accès industriel international du ministère de l'Industrie. À cette occasion, I Gusti Putu Surya Wirawan a également tenu une réunion avec le ministre Daryl Leiking. Il a déclaré que la coopération qui sera menée comprend le développement des compétences des ressources humaines, le renforcement des chaînes d'approvisionnement, le renforcement de la compétitivité des industries de composants et la conduite d'activités de recherche et de développement. Selon lui, l'Indonésie et la Malaisie ont la force conjointe avec la disponibilité de 2000 industries de composants. Pendant ce temps, avec une grande population atteignant 660 millions de personnes, l'Asie est un marché potentiel, en particulier pour l'industrie automobile. Par ailleurs, le président de l'Institut indonésien d'automobile, Imad Danatangkas, a déclaré que sa partie et l'Institut malais d'automobile encouragent l'éco-entreprise entre les sociétés de composants automobiles des deux pays. Les deux pays initieront la formation de la Fédération des instituts de l'automobile de l'ASEAN. Avec la force des industries des composants des deux pays, l'industrie automobile peut utiliser le contenu de l'ASEAN pour les véhicules à partir des composants totaux produits par les pays de l'ASEAN. Made Dana a ajouté, maintenant au moins dans chaque pays utilise 40% de contenu local. Si elle est combinée pour atteindre 100%, elle peut être appelée contenu de l'ASEAN. C'est là que les voitures de l'ASEAN peuvent être construites. Le président directeur général de l'Institut malais de l'automobile, Dato' Muhammad Madani Sahari, a ajouté que les deux parties identifieraient les sociétés qui pourraient coopérer et être encouragées à produire des composants pour les véhicules à moteur à combustion interne. Des recherches conjointes seront également menées pour étudier toutes les nouvelles technologies comme les véhicules électriques et hybrides. Sahari a également déclaré que l'Indonésie et la Malaisie voulaient coopérer sur les biocarburants car l'huile de palme est un produit important pour les deux pays. Il est possible de coopérer avec d'autres pays de l'ASEAN comme Thaïlande ou les Philippines. Il espère que cette co-entreprise pourra produire ses propres véhicules. C'est retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Yeah.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de différentes régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons l'un des aliments typiques de Bengkulu. Restez à l'écoute. L'Indonésie est bien connue pour ses différents types d'aliments traditionnels qui sont uniques et délicieux. Le caractère unique des aliments peut provenir de la façon de le cuire. Il y a des aliments traditionnels qui sont traités par la fermentation pour éviter que les aliments ne pourrissent pas. L'andou et l'emea. Nourriture de la région de Lebong, Kepahyang, Bengkulu du Nord. Chers auditeurs, l'emea est un aliment de fermentation de la tribu Rejang. La tribu Rejang est l'une des tribus réparties dans la province de Bengkulu. L'ingrédient principal de la nourriture est rebung ou le jeune bambou qui a beaucoup de nutriments tels que les protéines, les acides aminés, les glucides et les antioxydants. Habituellement, dans l'emea, rebung est mélangé avec du poisson puis fermenté. Le poisson qui est habituellement utilisé est le poisson tilapia et sepat. Chers auditeurs, le processus de fabrication de l'emea prend beaucoup de temps parce que dans son processus, les matières premières de la nourriture doivent être fermentées pendant environ 3 jours. Pour le faire, d'abord, mélanger rebung et les tranches de poisson, remuer le mélange des deux ingrédients. Ensuite, laisser la pâte pendant 3 jours dans un récipient fermé. Après 3 jours, la pâte fermentée est traitée à nouveau en étant cuite et mélangée avec du lait de coco et des ingrédients tels que l'oignon rouge, l'ail, le piment, la citronnelle, le sucre et le sel. L'emea a un goût typique et unique, mais il n'en est pas moins délicieux avec d'autres aliments traditionnels régionaux en Indonésie. Le goût aigre et épicé de la fermentation et de son ingrédient donne envie à tous ceux qui le goûtent de le consommer de plus en plus. Jusqu'à présent, beaucoup de gens apprécient la nourriture traditionnelle de Bengkulu. Même, la nourriture est emballée et exportée vers le Japon. À Bengkulu, la nourriture devient toujours un menu quotidien à la maison. Si vous êtes intéressé à goûter l'emea, vous ne serez pas difficile de le trouver car il y a beaucoup de restaurants à Bengkulu qui vendent cette nourriture. Serviteurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui avec le titre L'emea, la nourriture traditionnelle de Bengkulu. Merci de votre attention. À bientôt.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est « Ada uang kecil ?» Je répète, « Ada uang kecil ?» En français, « Tu as des petites monnaies ?» Bonne étude. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Ada uang kecil ?» qui signifie « Tu as des petites monnaies ?» Au centre commercial, Tony et Enda faisaient leurs courses et ils payeront pour un porte-clé qui coûte 12 000 roupies. Et Tony a donné 5 000 roupies. Pramuniaga. Harganya 12 000 rupiah. Tony. Ini uangnya. Pramuniaga. Aduh, ada uang pas? Saya belum punya kembalian. Tony. Oh, ada. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Ada uang kecil, ou en français, tu as des petites monnaies. Et je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Harganya 12.000. Harganya 12.000. Qui signifie, il coûte 12 000. Ini uangnya. Ini uangnya. Qui signifie « Voici l'argent ». Aduh, ada uang pas. Aduh, ada uang pas. Qui signifie « Oh là là, tu as de l'argent exact ?» Saya belum ada kembalian. Saya belum ada kembalian. Qui signifie « Je n'en ai pas encore ». Oh, ada. Oh, ada. Qui signifie « Oui, j'en ai ». Dans le dialogue, le vendeur a dit « Aduh, ada uang pas ? Saya belum ada kembalian. » Uang pas ou l'argent exact est la quantité d'argent qui conforme au prix de l'article. Parfois, le vendeur demande aussi de l'argent exact. Par exemple, lorsque le prix de marchandise est 12 000 roupies, mais l'achateur donne 5 000 roupies. Par exemple, Tony, ini uangnya. En français, voici l'argent. Kasir, ada uang kecil? En français, tu as des petites monnaies? Uang kecil ou des petites monnaies signifie que l'argent nominal est inférieur à l'argent donné. Parce que le prix de marchandise est 12 000 roupies, vous pouvez donner 15 000 roupies ou 20 000 roupies pour que le changement ne soit pas trop. Et si vous n'avez pas de petite monnaie, vous pouvez dire « Maaf, tidak ada ». Je répète « Maaf, tidak ada ». Ou vous pouvez dire « Maaf, tidak punya ». Par exemple, Tony. Ini uangnya. En français, voici l'argent. Kasir. Ada uang kecil? En français, tu as des petites monnaies? Tony. Maaf, tidak ada. En français, pardon, je n'en ai pas. En Indonésie, vous devez toujours avoir de l'argent et des petites monnaies. Au marché traditionnel, au magasin et même aux plusieurs kiosques dans les centres commerciaux, les paiements utilisent généralement de l'argent. seulement au supermarché ou certains kiosques qui peuvent payer en utilisant des cartes bancaires. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Harganya 12.000.
Ok, ini uangnya.
Aduh, ada uang pas? Saya belum punya kembalian.
Oh, ada.
Après avoir écouté la conversation dont le titre est « Ada uang kecil » ou en français « Tu as des petites monnaies ». Je vais vous donner un exercice en utilisant deux mots que nous avons déjà appris. L'exercice est « Décrivez votre travail en mentionnant votre nom, votre profession, votre bureau, vos horaires de travail comme le jour, les heures et la pause de travail. » Par exemple, « Nama saya Andy, saya seorang wartawan bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Waktu bekerja saya hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan jam istirahat saya jam 12 sampai jam 1 siang. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email. Il y aura un prix intéressant pour un euro gagnant, et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. On se rencontre avec moi, Tiwi, dans le magazine musical, une rubrique qui vous présente les chansons indonésiennes. Pour célébrer le 73e anniversaire de l'Indonésie, le 17 août, je vais présenter dans cette édition quelques chansons dont le thème est nationalisme. La première chanson que je vais vous donner est intitulée « Merah Putih » de Saikoji, qui a été gratuitement lancée par Saikoji en 2009. Cette chanson commence par une pièce de discours de Soekarno, le premier président de la République d'Indonésie. Avec le genre hip-hop, cette chanson invite les Indonésiens à se respecter mutuellement et à rester unis en tant que nation. Et les auditeurs, écoutons maintenant la chanson s'intitule « Merah Putih » chantée par Saikoji.
Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu.
Buat semua bangsa lain tersentak, kibarkan sangsaka dengan serentak, harumkan nama Ibu Pertiwi serempak di bawah langit biru berkibar tertiup. tiup angin. Bangga jadi orang Indonesia, ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu-membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa.
Ya, yeah, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa, kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku, aku bersumpah. Memegang erat bendera merah putihku, sisihkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya, bangsaku Indonesia namanya.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa.
Voilà la chanson intitulée Merah Putih de Saïkoji. En français, Merah Putih est rouge et blanc. Ensuite, on va écouter la chanson intitulée Garuda chantée par Chocolat. La chanson Garuda est sortie en 2017 dont le thème est nationalisme. Cette chanson décrit Garuda, le symbole de l'État indonésien. Garuda est l'esprit, la fierté, l'espoir et la force de la nation. Avec l'esprit de Garuda, le peuple indonésien a été invité à unir sa détermination pour l'État. Les auditeurs, maintenant, écoutons la chanson de Chocolat, un groupe indonésien dont le titre est Garuda.
Oh,
Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Garuda de chocolat ». La chanson suivante du nationalisme qu'on va écouter s'intitule « Selamanya Indonesia » chantée par 21st Night. Dans cette chanson, l'Indonésie est décrite comme un pays plein d'amour et de beauté. Ainsi, le peuple indonésien est invité à prendre soin de l'Indonésie pour toujours. Voici la chanson de 21st Night intitulée « Selamanya Indonesia » qui signifie « L'Indonésie pour toujours ».
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia.
Les auditeurs, je vais terminer l'édition d'aujourd'hui en écoutant la chanson de Kotak dont le titre est Merah Putihku. En accompagnant de la musique rock, la chanson intitulée Merah Putihku a suscité l'esprit des Indonésiens pour maintenir les valeurs de nationalisme dans le cœur. Alors les auditeurs, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Bonne écoute et au revoir.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110, ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOI, INDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.